Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 10 novembre 2021, vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 93. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'imprégnante Laetitia qui a réussi à influencer tous ceux qui la côtoient et qui a réussi même à me convaincre après plusieurs mois que le live shopping ce n'était pas aussi bidon que ce que je pensais. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky, la rumeur qui court, qui renfle, des news de chez nous et un café avec Nicolas Rebet de Retailoscope pour décrypter un concept store britannique. Eh bien, il s'agit de Browns. Et comme à chaque fin d'émission, on termine avec du fun et on vous challenge avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Cette semaine, c'est moi qui joue avec un French Connection engagé et un chiffre de la semaine qui fait froid dans le dos. Adrien,
Laetitia,
prêt,
synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
La marketplace de produits bio Greenwiz débarque en Espagne.
Colis privé livrera bientôt aux Pays-Bas l'année prochaine.
Walmart accélère dans le commerce conversationnel et fait l'acquisition de certains actifs de la technologie Botmock, une start-up spécialisée dans les applications de chat conversationnel.
Après Carrefour et Cajou, le groupe Casino s'allie à Gorillaz pour accélérer dans le quick commerce.
Klarna, on en parlait la dernière fois. Eh bien, Klarna a dévoilé sa nouvelle application de shopping tout en un. Paiement, achat et shopping en ligne. Le tout sur l'app Klarna qui est disponible en France sur iOS et Android. Et spoiler alert, je l'ai utilisé.
Nike se prépare doucement mais sûrement au métavers en déposant des marques virtuelles.
Seconde main, Camailleux lance le service Comeback. Les clientes sont invitées à porter en magasin des produits Camailleux qu'elles ne portent plus contre un bon d'achat.
La news what the fuck de la semaine.
Eh bien, en fait, fini pour Facebook, en tout cas pour le groupe Meta, qui décidait d'investir à fond dans le numérique. Finalement, il paraîtrait que Meta voudrait ouvrir des magasins physiques et s'était mis à la recherche de locaux à New York. Donc, on s'en fout un
c'est
peu.
C'est une rumeur ou alors ils vont le faire
non,
ou ils vont pas
alors,
le faire.
C'était une rumeur juste avant l'annonce du changement de nom Facebook Group par Meta. Et Facebook a démenti. Mais la réalité, c'est qu'ils avaient bien visité des locaux et qu'avant de se lancer dans les métaverses, bah, ils voulaient se lancer dans des magasins physiques.
Ils vont peut-être revenir avec une autre approche ou alors ça sera des magasins digitaux, quoi, mais dans le métavers. On verra bien. Et enfin, la news inutile dont on s'emballait, Laetitia, c'est quoi la news inutile de la semaine?
Je ne sais pas si on a des utilisateurs parmi nous de Instagram et de Twitter ou des deux, mais je ne sais pas si vous saviez, mais lorsque vous étiez sur Twitter, vous ne pouviez pas voir les aperçus photos d'un Insta que vous partagiez. Et bah, ça y est, après 9 ans de guerre froide, Instagram et Twitter ont décidé enfin de se réconcilier. Et je crois qu'on s'en fout un petit peu. Enfin, peut-être pas tant que ça, parce que l'intérêt qu'ils ont en commun, bah, c'est justement le monde des métavers. Et du coup, il vaut mieux qu'ils soient alliés plutôt qu'ennemis.
Est-ce que tu penses que ça aura un impact pour les marques ou les consommateurs ou pas?
Plutôt pour les utilisateurs de Twitter, ouais. Je pense que ça a un impact plutôt sur lui et sur les ex.
Rubrique quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on parle de nous, ce qui s'est passé chez nous ces derniers jours dans notre monde perso et dans l'e-commerce. Laetitia, quoi de neuf chez toi? Il s'est passé des trucs intéressants?
Ouais, des trucs super intéressants. La semaine dernière, j'ai assisté au Web Summit à Lisbonne. J'y étais pour les 4 jours. C'était vraiment, comment est-ce qu'on va dire ça? C'était sympa. C'était surtout très éreintant parce que vous passez 4 jours dans un truc énorme et comme ça fait 2 ans qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de monde réunis, collés, serrés sur un même lieu, bah franchement, c'est assez étrange. Je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et des gens à qui j'ai parlé. Donc cette année, le Web Summit, c'était particulier parce qu'on se retrouvait après 2 années sans s'être vu. Et c'est un mélange. Le Web Summit s'est créé depuis 2019. Je ne savais pas que ça avait été créé depuis autant de temps. Les premières éditions étaient à Dublin et finalement, je crois que Dublin, c'était trop petit. Et maintenant, ça se passe à Lisbonne, en bord de mer, dans un espace immense. Franchement, on pouvait se perdre. J'ai passé 4 jours là-bas, je me perdais tous les jours. Et vous avez plein d'acteurs de la tech. Vous avez des pays qui exposent et qui viennent vendre leur ingénierie. Vous avez bien évidemment des acteurs, de la tech qui exposent et sont toujours eux qui ont les plus beaux et les plus grands stands. Puis vous avez aussi des speakers. Et cette année, la personne qui ouvrait le bal, c'était Frances Huggins, qui est la lanceuse d'alerte, l'ancienne salariée de Facebook, lanceuse d'alerte, qui a ouvert le show et qui a... alors, elle n'a rien balancé de nouveau. Elle s'est juste expliquée sur les Facebook clicks dont elle est à l'origine. Et moi, j'ai trouvé son discours assez cohérent avec qui elle est. Et puis, son parcours aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été dans chez pas mal des acteurs de la Silicon Valley et de gros acteurs de la tech. Et je trouvais ça assez surprenant qu'elle soit toujours... qu'elle n'ait pas été déprogrammée, puisque deux jours avant, on avait Facebook qui faisait son annonce de changement de nom et son virage dans les métaverses. Et surtout que pendant le Web Summit, il y a d'autres personnes de Facebook qui ont pris la parole. Et en tout cas, j'ai trouvé ça assez courageux de la part des programmateurs du Web Summit de l'avoir. Bon, rien de nouveau dans ce qu'elle raconte, hein, à part de dire que pour elle, c'était épouvantable de participer à ce que Facebook crée et surtout ce que Facebook ne prévient pas et ne travaille et n'agit pas contre, par exemple, les fake news. Au contraire, il les encourage. Donc c'était hyper intéressant, mais du coup ça donne pas du tout le ton de ce qu'est le Web Summit, parce que pendant le Web Summit on ne parlait que de crypto, de blockchain, de metaverse, de vidéo et de NFT. Donc franchement, il y avait que des conférences autour de ça. Je voyais très peu de choses autour du développement durable, alors qu'on était en parallèle, il y avait la COP26 qui avait lieu. Donc j'étais assez surprise. Il y avait du e-commerce bien évidemment, donc je suis allée voir les corners e-commerce des et j'ai parlé à une startup que j'ai bien aimée. C'est une startup indienne qui s'appelle Big Box et qui fait de la vidéo hyper locale. En gros, tu es sur ton canapé et tu te demandes si ta boutique d'à côté, elle a reçu du stock, un réassort, machin. Au lieu de l'appeler, tu fais un appel vidéo et là, tu n'es pas sur WhatsApp ou quoi, tu es sur l'application qui s'appelle Big Box. Et puis, tu fais un appel avec un vendeur et le vendeur te propose une vraie expérience shopping. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait toute une trame de fait, toute une narration de préparer. Et moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé une tendance qu'il y a sur TikTok en ce moment, qui est justement de filmer l'envers du décor d'une boutique, de la préparation des commandes, de l'arrivage de réassorts ou de nouveaux produits. Et alors, c'est pas la startup la plus innovante que j'ai rencontrée, mais en tout cas, c'est la startup la plus sympa et qui, en des termes très simples, m'expliquait ce que ce devait être une expérience client aujourd'hui. Depuis son canapé, mais en e-commerce. Voilà, et sinon j'ai assisté bien évidemment à des conférences sur la fintech, on ne se refait pas. J'ai assisté notamment à la conférence de Checkout qui nous expliquait que la banque c'était fini, mais que les fintech, elles avaient encore un boulevard devant elles pour fixer tout ça. Voilà pour moi.
Est-ce qu'il y a eu des annonces pendant ce Web Summit ou pas ?
Non, pas de grandes annonces. Non, c'est pas vraiment le lieu en fait des annonces. Déjà, il y a beaucoup de speakers, il y a beaucoup de conférences. C'est très bien organisé, c'est très chronométré. Donc, c'est pas le lieu pour annoncer une nouvelle fonctionnalité d'un produit, puisque de toute façon, la news, elle se noie la seconde d'après.
C'est quoi l'audience qui va là-bas ? C'est des gens, les particuliers ou c'est des professionnels ?
Alors, il y a de tout. Il y a une grande majorité de professionnels. J'ai trouvé l'audience très jeune. Je pensais qu'il y aurait des gens peut-être plus de mon âge, on va dire, ou plus âgés, mais en tout cas, c'est très, très jeune. Ce qu'il y a de très bien, c'est que c'est international et que tous les soirs, vous avez l'Estonie qui va organiser son dîner. Vous avez l'Ukraine qui va organiser son dîner. D'ailleurs, j'ai assisté à la soirée estonienne, qui était plutôt cool, parce que comme vous le savez, l'Estonie est l'un des pays les plus digitaux du monde. Et du coup, c'était assez cool de discuter avec des investisseurs.
Ça sent que tu as assisté à leur dîner pour dire ça. Ils ont dû m'attraquer ça partout, qui sont les plus avancés.
Ah bah oui,
tu
oui.
serais allé dans le truc de la Pologne, ils t'auraient dit la même chose.
Non, parce que,
Turquie,
parce que je suis déjà allée en Estonie. Et effectivement, c'est hyper avancé. Et que pour prendre le bus, les Estoniens, ils sortent leur carte d'identité. Et tout est...
Oui, mais pour dire le plus avancé du monde, c'est quand même
ils sont très avancés. Et du coup, c'est un peu, pour le coup, c'est une vraie startup nation. Et le dîner était à leur image, c'était très cool, c'était très sympa. Et à l'inverse, sans le savoir, j'ai dîné aussi à côté d'une licorne, à côté d'Aircall, qui très très modestement, alors c'est un autre dîner, me dit, mais tu connais Aircall ? Oui, je vous connais. Mais c'était très sympa. Et donc voilà, tu peux dîner avec des licornes et l'instant d'après discuter avec un VC d'un grand groupe. Voilà. Donc les gens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont hyper accessibles. Et de toute façon, c'est le but du jeu du Web Summit, c'est être hyper accessible. Tu peux prendre rendez-vous avec n'importe qui, discuter avec n'importe qui, et il y a très peu de barrières à l'échange.
Sur les exposants, la partie commerce a représenté quoi? 5%, 10%?
Franchement, je dirais 5%. Il y avait énormément.
C'est quoi les acteurs?
C'est même
les
pas des acteurs connus. Non, pas du tout. En fait, ça se fait par pays. Il y avait pas mal de boîtes ukrainiennes, pas mal de boîtes indiennes. Bien évidemment, pas mal de boîtes portugaises. Mais c'était pas énorme. J'étais assez déçue sur l'e-commerce. En revanche, fintech, alors là, il y en a partout. De toute façon, c'est ce qu'on constate sur tous les salons en ce moment. Et puis, les pays aussi. Les pays prennent beaucoup, beaucoup de place. Je vois que les Émirats Arabes Unis avaient un très, très, très grand stand. En réalité, c'était plus. Ils proposaient plus de la fiscalité avantageuse que de la technologie. Mais tu parlais de la Pologne. La Pologne avait un corner. La Belgique aussi. La French Tech était présente, mais alors il n'y avait rien sur du e-commerce. Et il faut savoir que quand tu es une startup et que tu vas au Web Summit, tu as un tout petit corner, c'est même pas un stand que tu as, c'est une banque d'accueil que tu as, tu peux pas t'asseoir et tu fais des démos à longueur de journée. Donc franchement, c'est hyper fatigant, ça dure 4 jours. Et en gros, je suis pas certaine que tu ailles, enfin, qu'on fasse vraiment du business là-bas. En revanche, ton network, il en prend un sacré coup.
Ok, bah super, bah c'est très bien d'avoir ce retour. Ça a été couvert beaucoup le Web Summit là sur les news en dehors de l'événement. J'ai pas l'impression, non.
Dans les news étrangères, oui, mais alors en France pas du tout. Je crois que je sais pas si c'est une jalousie ou
jaloux. Ouais. Pourquoi?
Bah parce que c'est une superbe organisation. C'est des acteurs du monde entier y vont et ça marche quoi. Enfin les gens sont là. On pouvait se dire bah non les gens ne voyagent pas, mais c'est pas vrai. Le monde entier s'est retrouvé à Lisbonne et d'ailleurs Lisbonne était saturé à cause de cet événement. C'était compliqué de trouver des taxis, compliqué d'aller dîner dans des restaurants si on n'était pas invité par un pays ou par une solution. Donc ouais, c'est une sacrée prouesse d'organiser un tel événement dans une ville. Parce que toute la ville était brandée Web Summit, hein. Faut le savoir.
Ok, bah écoute, pendant que tu étais à Lisbonne, moi j'étais à Londres et c'est amusant parce que je suis allé dans comment ça s'appelle cet endroit là où tu peux prendre des produits en échange de l'argent, tu les achètes. Des magasins, voilà, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis les pieds là-dedans. Et en fait, sur la borne d'achat, alors moi, je découvre ça, peut-être que tout le monde connaît ça. Et ben, tu avais du Klarna. Donc, je savais pas que c'était si connu et si implanté, en tout cas à Londres, dans les point of sales. Et tu peux faire du paiement fractionné. Et je trouvais ça super intéressant parce que quand t'es en magasin, tu peux acheter très, très simplement. Tu fais ta première cotisation ou ton premier versement. Et ensuite, une fois par mois où tu sélectionnes le délai, tu peux le payer en plusieurs fois. Donc, trouver le paiement fractionné en magasin, c'était quelque chose que j'avais pas vu, mais bon, encore une fois, je mets jamais les pieds dans des magasins. C'est quelque chose que tu as déjà vu à Paris? C'est commun? Tout le monde le fait?
Non, jamais.
Ah ouais, donc j'ai eu raison de m'étonner, de me dire waouh, c'est pas mal.
Sauf pour les gens qui sont, tu sais, encartés, par exemple, au printemps, aux Galeries Lafayette, mais là, c'est beaucoup, comme tu le dis, il faut que tu te sois inscrit, que tu aies rempli un dossier, machin. Ouais. Mais là, comme ça, directement en paiement, au paiement et. Et sans avoir rempli le dossier
dans un magasin de fringues normal. Ouais, exactement.
Bah bravo,
c'était pas mal. Ouais, je sais que tu adores cette marque, donc j'ai trouvé ça amusant, j'ai souri. Et puis ouais, ils sont en train je pense qu'on va de plus en plus en entendre parler. Et puis déjà, nous, on en parle de plus en plus. Donc c'est assez étonnant tout ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de com et beaucoup de choses aussi qui se passent. Je crois qu'ils sont valorisés 70 milliards. Il me semble, je parlais cette semaine avec quelqu'un. C'est vraiment énorme. Bon, on passe à la suite. Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Laetitia, de quoi tu voulais nous parler cette semaine?
Eh ben moi, je voulais vous parler du coup d'Amazon qui a décidé de miser sur les livraisons propres et ça se passe uniquement dans Paris. Qu'est-ce que c'est qu'une livraison propre? C'est bien évidemment éviter pour les livreurs de rouler en camion. D'ailleurs, maintenant, c'est de plus en plus compliqué dans les rues de Paris. C'est privilégier le vélo et privilégier, j'ai oublié le nom, là, comment ça s'appelle, comme les triporteurs. Oui, c'est ça, c'est un triporteur. Priger ce genre de choses. Et en fait, l'objectif pour Amazon, c'est que d'ici 2022, de proposer davantage ce genre de livraison aux consommateurs. Donc, fini les camions qui roulent au diesel, qui sont remplis de colis. Amazon, désormais, propose une livraison propre dans Paris.
Et toi, tu l'as vu ou tu l'as lu?
Non, je l'ai lu, je ne l'ai pas vu. Je n'habite pas à Paris encore.
Okay. Et ça va être... Ah ouais, c'est que Paris intramuros. Et ça... Mais bon, de toute façon, quand on se balade sur Paris, tu dois le voir, ça. Et ça va être développé aussi. Ça va être juste pour un petit segment. Tu crois que c'est quelque chose qui est appelé à être un peu partout?
Bah, non, je pense que ça va se développer notamment dans des villes plus écologiques du type Grenoble ou alors Lyon, Nantes, toutes ces villes-là où on voit, bah, par exemple, notre copine Jessie de Pick Me qui propose une livraison aussi un petit peu plus écologique, elle s'est implantée dans des villes comme ça où il y avait déjà un mindset propre à justement la livraison propre. Donc je pense que ça va se développer. N'oublions pas que Paris est une ville dirigée par Anne Hidalgo qui est très très écolo. Du coup, moi j'ai pas envie de dire que je salue ce qu'Amazon fait. En fait, il était temps, les gars. Je comprends même pas que vous ayez jamais commencé par ça. Mais bon. C'est un petit pas. En plus, toujours en marge de la COP26 que je suis. Écoute, pourquoi pas, hein, allons-y.
Ils le font parce que c'est propre ou parce que c'est plus pratique maintenant sur Paris de livrer en vélo?
Voilà, il y a aussi cette question de praticité. Je pense que c'est beaucoup plus pratique. Enfin, je sais pas. Par exemple, moi, je me rends compte que quand on est en banlieue, les livraisons Uber Eats ou tout ce qui est quick commerce, ça s'effectue en voiture. Hein. Il y a très peu de livreurs qui sont en vélo. À l'inverse, dans la capitale, tout se fait uniquement en scooter et en vélo.
Ouais, je pense qu'il y a aussi un côté un peu pratique. Et puis, ils se sont dit, si on peut faire un pillard autour de ça, why not? Donc, bon, en tout cas, ouais. Après, l'ambition d'Amazon à haut niveau, c'est d'être zéro carbone. Donc, je suis pas sûr de l'empreinte que ça peut avoir vraiment si, sur Paris, si on regarde au niveau français, de l'empreinte qu'ils ont. Merci Laetitia, on va suivre ça, on va voir si ça se développe et si on commence à avoir avant, c'était des queues de camions Amazon qui faisaient des bouchons. Maintenant, ça va être des queues de tricycles. Je suis curieux de voir ça. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est la section où on parle des rumeurs, des bruits de couloir, des gossips qu'on note de 0 à 10 en fonction de l'intérêt et du côté croustillant que ça. Laetitia, avant même de parler du gossip, là, tu me dirais que c'est quoi? C'est un truc de 0 à 10, tu noterais à combien là, cette rumeur?
Ah, mais elle est pourrie.
Un 2 sur 10, un petit 2 sur 10, un petit truc, c'est une petite chips là, qui reste au fond, du paquet de chips, c'est ça? Le truc que personne ne veut? Chips au citron ou un truc dégueulasse? Alors vas-y, balance.
Les déchets, tu vois. Il s'agit d'Instagram qui déciderait de lancer des abonnements payants. Alors en fait, moi, ce qui m'interpelle dedans, c'est abonnements payants. Vous le savez, sur Instagram, une plateforme en général d'un réseau social, il y a beaucoup de créateurs de contenu et il est compliqué pour les créateurs de contenu d'être rémunérés, surtout quand on n'est même pas un micro-influenceur, quand on est personne. Par exemple, moi, si demain j'ai envie de monétiser mon audience, écoutez, maintenant ça va être possible. Parce qu'Instagram va lancer des abonnements payants. Ce qui veut dire que si vous avez envie de voir du contenu premium que moi je vais proposer, ou par exemple LCD, vous allez pouvoir vous abonner. C'est de la même manière que vous pouvez vous abonner sur du Substack, sur du Patreon, sur toutes ces plateformes qui vous invitent à découvrir du contenu premium, du contenu que le créateur ne délivre pas comme ça à tout le monde, sauf moyennant finance. Pour moi, c'est pas très croustillant parce que je sais que, en fait, Instagram y réfléchit depuis très, 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 très longtemps et ils n'y arrivent pas. C'est un peu comme le e-commerce en fait. Tout ce qui touche à la monétisation, alors je ne parle pas de la monétisation des marques, mais en tout cas de la monétisation autre, c'est toujours compliqué, je trouve, pour les plateformes de réseaux sociaux. Et même si là, le prix d'entrée annoncé est de 0,99$ pour le prix de départ, je ne suis pas certaine que, en tout cas moi, je sois assez accro pour m'abonner à différents créateurs et à différents contenus premium. Je préfère à la limite des plateformes de type Patreon où là volontiers je paye pour avoir du contenu de qualité, parce qu'en plus ce qui se cache derrière, c'est que je suis même pas certaine que les créateurs proposent réellement du contenu de qualité, parce qu'on le sait très bien que ce genre de plateforme ne fait aucun contrôle. Donc voilà, c'est pas une info hyper croustillante, c'est pas une rumeur dont on parlera dans tous les dîners mondains, mais voilà, Instagram, le groupe Meta se penche sur les abonnements payants.
Et ça va être un abonnement par créateur ou par créateur de contenu, ou ça va être une sorte d'abonnement, tu payes un ou deux, quelques euros par mois et tu as accès à tous les contenus payants? C'est un peu comme le Amazon YouTube Premium?
Non, je crois que c'est un abonnement au créateur.
Et donc, c'est le créateur qui récupère ça et puis un petit truc. Et toi, parmi les 10 000 personnes que tu suis, il n'y a personne où tu serais prêt à donner 1 ou 2 euros par mois pour avoir ce contenu?
Alors, si, il y a des gens...
À ce point-là, un contenu exclusif?
Si, il y a des gens que je suis, mais qui vont sur Patreon. Et du coup, je n'hésite pas à payer pour en lire davantage. Mais c'est vraiment des choses que j'estime, moi, de qualité. Si tu veux, c'est pas la GLC Family qui me demande de payer pour voir la suite de leur épisode, de leur famille, quoi, à Dubaï.
Et ce qui se passe, c'est que sur cette plateforme-là, tu partages parfois des images, parfois des vidéos, parfois des sons ou du texte. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, ouais, c'est étonnant de voir juste du Instagram. Mais bon, pourquoi pas, il y a peut-être des marques qui sont, ou des créateurs de contenu qui font des choses particulières. Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Laetitia, ni moi-même. Et cette semaine, on retrouve notre ami Nicolas Rebet de Retailoscope, qui va nous parler d'un magasin à Londres, Browns, et qui est rattaché à Farfetch. On vous explique tout de suite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Rebet. Bonjour Nicolas.
Bonjour Adrien.
Nicolas, aujourd'hui, tu voulais nous parler de quoi ?
Alors, aujourd'hui, je vous présente le magasin Brands à Londres. Donc, le magasin Brands à Londres, en fait, c'est un petit grand magasin qui est historique pour Londres, mais qui a été racheté en 2015 par Farfetch et qui, surtout en 2021, a déménagé. Et en fait, Farfetch a voulu optimiser l'expérience et définir un peu le magasin du futur pour avoir une fusion entre un parcours client digital et un parcours client physique pour créer le meilleur du magasin. L'idée qui se passe derrière, hein, c'est que la technologie, les services et l'engagement client que Farfetch a développé côté digital peuvent se retrouver dans un point de vente. Globalement, on y retrouve de la mode, des accessoires, des articles de la maison, du parfum et ainsi de suite. Il y a un resto également. Mais c'est que surtout, il y a des animations dans ce point de vente pour créer de l'engagement auprès de toute la communauté de clients Farfetch londoniennes. L'idée, c'est qu'on a, par exemple, des manucures, un tatoueur, enfin, bon, plein de choses qui vont apparaître. Et c'est pour créer une connexion émotionnelle dans un lieu physique entre le magasin et leurs clients. Et finalement, on pourrait se poser la question, mais pourquoi un e-retailer de luxe comme Farfetch crée un magasin physique ? C'est pour créer vraiment cette connexion émotionnelle. Et finalement, le point de vente a plus été créé d'un point de vue relationnel, presque que d'un point de vue chiffre d'affaires, si on veut réfléchir comme un retailer physique pur et dur. Et en fait, c'est qu'ils le disent très bien, hein, c'est que nous ne voulons pas faire du shopping en direct avec nous, mais que nos clients profitent de l'expérience et que nous pouvons ainsi amplifier les relations et assurer le succès in fine de Farfetch derrière. Donc, c'est là où on voit que le magasin finalement change de destination, change de but ultime. C'est plus faire du CA, mais faire presque de l'émotion et de la relation avec le client. Moi, ce que j'aime bien aussi dans ce magasin, c'est que finalement, Farfetch sont, quoi qu'il en soit, des gens du e-retail et de la techno. Et ils ont mis plein de choses à l'intérieur de ce magasin pour améliorer le parcours client digital. Et eux, ils définissent vraiment, hein, c'est en fait, c'est la fusion entre la technologie et le service client qui, en fin de compte, le nouveau luxe selon Farfetch. Globalement, on va voir ces différents points. La première, c'est l'app client qui à la fois permet d'interagir avec le point de vente quand on est à l'extérieur du magasin et qui déverrouille des nouvelles fonctionnalités lorsqu'on est à l'intérieur du magasin.
Nicolas, juste avant que tu continues, l'app client, c'est une app, c'est l'app Farfetch ou c'est l'app magasin ?
C'est l'app magasin. Déjà...
D'accord, ok.
C'est l'app Brands en fait, hein. C'est vraiment, elle est différente. Donc l'app Brands, et c'est la porte d'entrée vraiment de l'expérience en point de vente, elle te permet en amont de passer en revue les collections, de prendre rendez-vous, d'essayer virtuellement des baskets ou des montres. Elle permet également de faire ta liste de souhaits qu'après tu vas envoyer à ton personal stylist quand tu seras en point de vente, qui lui aussi permet de trouver les bonnes pièces avant que tu viennes. Et une fois que tu es en magasin, bah finalement, cette app te permet d'enregistrer tes préférences, de te présenter un QR code pour que les vendeurs puissent directement accéder à tout ton espace client et tout ce que tu as pu acheter précédemment sur Farfetch, de voir aussi la liste de souhaits que tu avais pu créer en amont et de consulter aussi des contenus spécifiques à valeur ajoutée, des vidéos, des tendances et ainsi de suite sur un point de vente. Donc ça, c'est vraiment l'app client qui a deux versions, en dehors et à l'intérieur du magasin. Tu as de l'autre côté le vendeur qui a aussi la même app mais avec des services différents. Lui, bien entendu, va se permettre de se connecter au profil de ses clients pour connaître leur goût, de connaître le stock, de aussi pouvoir envoyer des recommandations au miroir connecté, on va le voir juste après, de gérer des opérations et de prendre rendez-vous auprès des services du magasin pour son client. Donc là, c'est pareil, hein, on voit qu'on a permis aux vendeurs d'avoir des outils supplémentaires pour optimiser l'expérience du client en point de vente. On parlait juste avant des miroirs connectés. Donc ça, c'est un des devices un peu spécifiques du point de vente. Il permet comme ça de te créer différentes tenues que tu peux associer avec les différents produits. Tu vois plusieurs vues de la tenue. Tu peux le voir aussi en intégralité. Tu peux faire des recommandations produits. Il y a un moteur de reco qui a été fait. Comme quoi, quand tu choisis une pièce, on te permet de sélectionner un look complet avec le haut, le bas, les chaussures et ainsi de suite. Donc là, on a une, c'est assez nouveau. On l'a vu aussi dans quelques autres points de vente. Mais là, c'est une façon différente d'optimiser ton expérience en magasin. Et le dernier device, qui sont des smart tags. Donc là, c'est pareil. Hein, ce sont les petites étiquettes que tu as trouvées sur les cintres qui te permettent en tant que client d'aller récupérer des infos produits. Mais c'est surtout, côté Farfetch, une façon de capter de la data. Et ils peuvent ainsi savoir, pour optimiser ensuite l'agencement, les planifications des marchandises, pour savoir quel type de client a scanné, quel type de produit, donc pour réorienter ainsi de suite les personnalisations produits en fonction des clients. Et aussi, là, c'est une mine d'or pour connaître son client. Quels sont les produits qui vont avoir le plus d'intérêt pour telle ou telle cible? Quels sont les produits qui, finalement, sont un peu moins mis en avant à l'intérieur du magasin? Peut-être, si je fais des rotations de produits au niveau du merch, elles vont avoir une meilleure visibilité, donc un meilleur scan, et ainsi de suite. Ça, généralement, c'est ce que les retailers ont beaucoup de mal à savoir, à part si le client achète, et dans ce cas-là, tu peux le savoir par les tickets de caisse, mais s'il n'y a pas d'achat, là, on peut quand même le savoir, parce que, comme on le disait en début d'interview, hein, ce magasin-là n'est avant tout prévu pour faire de l'émotion et pas du transactionnel. Donc, c'est un moyen hyper intéressant de contourner le problème du passage en caisse. Du coup, ce qu'on en retient, c'est que malgré un business model digital, en fait, Farfetch sentait le besoin de créer une boutique physique pour rentrer en contact avec ses clients. Du coup, que la digitalisation du point de vente passe par 4 points de contact. Une app client qui est riche avec des fonctionnalités in-store et out-store pour donner un vrai contenu à valeur ajoutée. Une app vendeur qui fournit toutes les infos nécessaires selon les demandes du client. Les miroirs connectés et donc ces tags connectés. L'idée globale est de renforcer le lien et ne pas avoir une vertu trop transactionnelle.
Nicolas, j'ai pas mal de questions. Tu as dit qu'ils avaient ouvert ce magasin. Ils ont racheté un magasin, une enseigne qu'ils ont rebrandée ou ils ont vraiment refait le magasin de A à Z?
Non, en fait, Brands, c'est un petit grand magasin londonien qui existait depuis très longtemps, depuis les années 50.
D'accord.
Donc, ils ont changé en 2021 de lieu parce que le lieu historique, en fait, n'était plus vraiment en cohérence. Le luxe à Londres a bougé et du coup, ils étaient plus vraiment en cohérence avec le lieu autour. Donc, ils avaient besoin de créer et donc là, ils ont rouvert au 39 Mayfair Book Street.
Et une fois que quand tu es dans le magasin, donc ils ont travaillé, ils ont fait tous les travaux pour intégrer tout ce que tu viens de décrire, dans le magasin physique, est-ce que tu vois le logo Farfetch et tu sais qu'il y a le site derrière ou non? Parce que de tout ce que tu m'as décrit, j'ai l'impression que tu le vois pas.
Farfetch, non, c'est Brands en fait. Hein. Eux, ils communiquent, le client le sait, mais si tu veux, ils communiquent avant tout sur le nom du magasin qui est Brands.
Ouais, et la data, parce qu'en fait Farfetch, bon, ils collectent énormément de données en ligne. C'est ce qu'ils ont voulu intégrer dans ce magasin du futur, c'est mettre de la data partout pour essayer de récupérer un maximum d'informations.
Exactement. Donc d'où avec les tags connectés, c'est une bonne façon de contourner ce manque de data que certains retailers peuvent avoir pour savoir ce qui intéresse le client, est-ce que va visualiser le client en termes d'assets digitaux complémentaires à valeur. On peut par exemple voir les images du défilé pour telle ou telle pièce. On est vraiment sur des modes, sur des produits hyper modes.
Ce magasin, donc il a ouvert il y a quelques mois. Tu sais s'il fonctionne bien, s'il y a du trafic. Tu dis c'est pas le CA le plus important, mais ça coûte tellement cher d'avoir un magasin. Il y a quand même il faut quand même qu'il génère un minimum de revenus, non?
Honnêtement, j'en ai aucune idée. Farfetch ne communique pas du tout sur un chiffre d'affaires ou ce genre de réalisation, parce qu'en plus, ça fait pas très longtemps qu'il est ouvert. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'ils ont ouvert un deuxième point de vente, alors beaucoup plus petit.
Ah, j'allais te demander ça, justement.
En fait, il reprend un peu ce principe-là dans un autre quartier de Londres. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même un intérêt. Ils ont rouvert celui-ci en premier et quelques mois après, ils ont ouvert le deuxième. Donc, on peut supposer qu'il y a un intérêt. Et après, je suis incapable de dire si niveau chiffre d'affaires, ça tourne.
Ouais, mais ils ont ouvert un deuxième. Donc, ils sont dans cette idée d'aller ouvrir plus de magasins et de continuer leur expérience.
Et Farfetch aussi, faut bien prendre en compte, hein, intervient auprès, en marque blanche, auprès d'autres grands noms de la mode, notamment Chanel.
Nicolas, comment, alors, tu vois, on n'a pas tous la chance de pouvoir aller à Londres. Est-ce qu'il y a un moyen de visiter ou d'avoir des informations sur ce magasin pour se donner une idée?
Il y a une vidéo qui a été faite justement par Farfetch pour présenter le point de vente avec l'interview de la directrice. Donc, le lien sera disponible, bien entendu, sur le site du Café du e-commerce.
Ok, on le mettra en commentaire, bah super. D'ailleurs, Nicolas, tu m'as partagé que tu allais mettre quelques images qu'on allait pouvoir mettre directement en commentaire. Donc, on va mettre un lien vers une petite présentation de quelques images que Nicolas, tu as compilées et ça permettra de visuellement de se donner une idée de quoi il s'agit et comment est le magasin. On mettra aussi le lien pour te contacter et puis on se revoit très vite. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt.
Avec plaisir. Merci, Adrien. À bientôt.
Reco micro, au micro, on fait notre reco illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion du podcast Le Café de l'e-commerce en lien dans la description. Adrien, quelle est ta reco de la semaine?
La recommandation de la semaine, c'est un podcast, on retourne au basique, Catch the Tornado. C'est un podcast de e-commerce en anglais qui parle de start-up, qui reçoit pas mal de monde. Et puis là, dans le dernier épisode, ils ont reçu par exemple Julien Lemoine, qui est cofondateur d'Algolia. Donc c'est toujours ces formats interview. En général, ça dure une petite quarantaine de minutes. Donc voilà, je vous invite à écouter ça si vous êtes intéressé pour écouter les fondateurs de l'écosystème e-commerce. Laetitia, quel est ta reco?
Moi, ma reco de la semaine, c'est un jeu. J'ai vraiment rigolé. Alors, c'est Laura. J'avais recommandé sa newsletter, je crois, il y a deux épisodes ou un épisode. Et elle-même, dans sa newsletter, elle nous recommande Zook the Game. Can you build Facebook? En gros, vous avez 7 minutes. On vous pose des questions pour savoir si vous auriez pu ou non fonder Facebook. Et c'est vraiment marrant parce que selon ce que vous répondez, bah, il y a différents scénarios qui se mettent en place. Et spoiler, non, je n'aurais jamais pu créer Facebook.
Et ça se termine par tu peux pas créer Facebook, mais tu aurais pu créer un autre truc, un site tout pourri, ou non, c'est quoi la réponse?
Enfin, bah, en gros, c'est juste oui ou non. C'est je me fais têche par une nana, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je pleure, je me venge et je crée Facebook, voilà, où je vais pleurer dans les jupons de mon meilleur ami.
Ok, donc c'est comme un jeu en fait dont vous êtes le héros et il faut trouver les bonnes réponses pour terminer. Ouais, t'aurais pu créer Facebook,
c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. C'est surtout qu'il faut connaître l'histoire de Facebook et je pense qu'il faut avoir vu le film de Social Network parce qu'il y a plein de références à ça. Mais c'est plutôt, c'est assez rigolo.
Merci beaucoup Laetitia. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et on s'éclate. Laetitia, cette semaine, c'est la maître du jeu. On s'amuse autour du digital, du e-commerce. N'hésitez pas à vous prendre au jeu, à jouer cette semaine contre moi, derrière votre poste. Et voilà, chacun participe. Et puis aujourd'hui, Laetitia, tu as deux jeux pour nous. Alors, on commence par quoi?
On va commencer par French Connection. Donc, je vais vous citer plusieurs mots, plusieurs noms à la suite. Et puis, vous allez me dire, en tout cas là, Adrien, puisqu'on est en remote que tous les deux, tu vas me dire si ça te fait penser, enfin, quel est le lien entre tous ces noms. C'est parti. Alors, Biocop, Lidl.
Non, ensuite.
Naturalia.
Ok, tout ça, c'est la food, c'est la bouffe. Coup de commerce.
Franprix.
Non, on a déjà fait, non. Non, proximité. Ouais, je sais pas du tout.
La Vie Claire, Monoprix.
Bio.
Natureo et Greenwiz.
Alors non, pas Carrefour. Non, je sais pas. Alors vas-y, donc j'ai perdu.
Ce sont 8 anciennes françaises qui ont décidé de lancer une expérimentation pour afficher non pas le Nutri-Score, mais le Planet Score de 1000 produits alimentaires sur plusieurs sites e-commerce d'ici la fin de l'année. En gros, c'est comme le Nutri-Score, sauf que là, on va calculer l'impact carbone, on va calculer l'impact sur le climat, l'impact sur la vie sauvage, la biodiversité, la toxicité, les usages de pesticides ou non dans les produits. Et voilà, toutes ces enseignes ont décidé de participer à Planet Score. En gros, c'est 27 fabricants, c'est 8 anciennes et qui ont décidé d'afficher sur 1000 produits alimentaires uniquement sur site e-commerce et d'ici la fin de l'année.
Superbe initiative, donc super. Merci Laetitia. Le second jeu,
c'est le chiffre de la semaine. Si je te dis 22 millions, tu me réponds que c'est le nombre d'articles invendus par la fast fashion en 2021. C'est le nombre de colis bloqués dans les ports chinois en ce moment. Aïe, 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 on va pas être livré pour Noël. Et enfin, c'est la masse de CO2 émise, donc du coup en tonnes, lors du Black Friday 2020 pour plus de 6 milliards d'achats en ligne?
Alors, le premier, déjà, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça se compte en milliards, pas en millions. Le deuxième, ça me fait réagir que j'ai déjà acheté mes achats de Noël. Parce que quand, plus tu es dans l'e-commerce et tu lis les trucs, plus tu sens que ça va être la fin du monde et que personne ne va être livré. Donc, je pense que c'est aussi c'est plus élevé. Et moi, je dirais là, le dernier. Tu me rappelles ce que c'est? C'est combien est bloqué, c'est ça? Sur le Black Friday, non? C'est quoi la dernière proposition?
C'est la masse de CO2 émise lors du Black Friday 2020. C'est ta réponse?
Ouais.
Ok, mais c'est bien ça.
Je pense que c'est ça.
22 millions de tonnes, c'est la masse de CO2 émise lors du dernier Black Friday en 2020 pour plus de 6 milliards d'achats en ligne. C'est 10 fois plus de CO2 qu'en 2014. Et ça fait froid dans le dos.
Et Laetitia, est-ce que tu as les chiffres pour les autres?
Pour les autres. Ah, ce que j'ai inventé là? Non.
Ah, d'accord, non. Ok. Je pensais que tu allais donner les réponses sur fast fashion, etc.
J'aurais plus. Bah alors, franchement, est-ce qu'on aurait ce chiffre-là sur la fast fashion? Je sais pas.
Ouais, tu trouves des estimations. Ouais. On trouve des chiffres sur tout. Après, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont sourcés? Je sais pas, c'est autre chose. Donc, sinon.
Et sur l'ombre de colis bloqués, je crois que c'est possible. Et je crois que, oui, comme tu le dis, ça doit être. Enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus élevé parce qu'en fait, les ports sont bloqués depuis un bon moment maintenant. Bon, eh ben, bravo, Adrien. Tu as gagné 1 sur 2. Tu as un point. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site Le Café de l'e-commerce. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Et surtout, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast.
Merci à tous. Et d'ailleurs, on a lancé notre nouveau design, notre nouveau charte graphique. On n'a pas fait de grandes annonces, mais les premiers retours sont très positifs. Donc, a priori, normalement, tout est mis à jour maintenant sur les différentes plateformes. Donc, on espère que ça vous plaît. Eh bien, écoute, Laetitia, à la semaine prochaine. Et puis, les auditeurs, à très vite. Ciao, ciao.
À bientôt.
Quel est cet endroit ?